Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Alors certains auront peut-être reconnu le prophète Élie. Après une victoire éclatante donnée par Dieu sur les prophètes de Baal, Élie prend peur et il s'enfuit sous la menace de Jézabel. Il est complètement découragé et demande même la mort.
Ne m'appelez plus l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu Tout-Puissant m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Le Seigneur Tout-Puissant s'est tourné contre moi et a causé mon malheur.
Après avoir perdu son mari et ses deux fils, Noémie, la mère de Ruth, est proche du désespoir et a décidé de rentrer à Bethléem. À son arrivée, c'est tout juste si on la reconnaît tant elle a changé. Les femmes s'exclament « Est-ce vraiment Noémie ?» Elle ne veut plus qu'on l'appelle Noémie, l'heureuse, mais Mara, l'affligée. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. C'est Jonas qui parle. Le prophète Jonas a aussi demandé la mort, après que Dieu ait entendu le repentir des Ninivites et décidé de ne pas les exterminer. La colère du prophète Jonas se change en découragement et lui aussi demande la mort.
Par le Seigneur, vivant ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir.
C'est la veuve de Sarepta qui parle. Une grande famine s'est abattue sur tout le pays d'Israël. En effet, le prophète Élie est envoyé au roi Achab, qui a gravement offensé le Seigneur, pour lui dire « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Plus tard, Élie est envoyé chez une veuve de Sarepta, pour y être nourri, et il lui demande un morceau de pain. Mais cette veuve, avec son fils, est désespérée, car elle n'a plus rien à manger. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. L'apôtre Paul aussi a été découragé, au point de désespérer de conserver la vie. C'est ce qu'il nous dit dans cette lettre aux Corinthiens. Moïse également a été plusieurs fois découragé dans la tâche immense qu'il a eu à assumer pour le peuple hébreu. Nous pourrions aussi citer Caïn, ou le roi David, ou le prophète Jérémie, ou bien sûr Job, ou bien d'autres encore. Qui, chers frères et sœurs, qui n'a pas été découragé à un moment ou à un autre dans sa vie? À travers ces quelques exemples, nous voyons bien que personne n'est à l'abri du découragement. Alors, tout de suite préciser que je souhaite parler ici de découragement, c'est-à-dire de la perte de courage, perte d'énergie ou de motivation, voire de l'abattement qui peut en résulter. Mais que je ne souhaite pas aborder le sujet de la dépression, qui est du domaine de la maladie. En ce début d'année, il est de bon ton de prendre de bonnes résolutions. Un humoriste disait « Qu'est-ce qu'une résolution du nouvel an ? » Une liste de choses à faire pour la première semaine de janvier. Autrement dit, nous sommes le 14 et nos bonnes résolutions se sont déjà envolées. Plus sérieusement, en cette période où nous avons souvent l'habitude de faire un bilan de l'année écoulée, certains peuvent être dans le flou ou même dans le découragement. Les causes possibles de découragement sont légion. Mon propos aujourd'hui n'est pas de les étudier toutes, ni même de les énumérer, mais d'en choisir quelques-unes et de chercher quelles pistes peuvent nous permettre d'en sortir et de reprendre le cours de notre vie. Je dis reprendre le cours de notre vie car tout découragement produit un blocage, ou tout au moins un frein puissant dans notre existence. Alors reprenons, si vous voulez bien, nos exemples du début. Voyons d'abord pourquoi Élie est découragé et comment il s'en est sorti. Il a remporté une victoire éclatante sur les prophètes de Baal. Alors on peut tout à fait penser qu'il vient de vivre un moment d'exaltation extraordinaire. Pensez donc, non seulement Dieu a répondu publiquement à sa prière en faisant descendre du ciel un feu qui a consumé le sacrifice, le bois, les pierres et qui a fait évaporer toute l'eau qui remplissait le fossé entourant l'autel. Mais ensuite, la pluie bienfaisante est arrivée. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas plu. Et même Élie, déjà très âgé, a couru devant le char du roi Achab depuis le mont Carmel jusqu'à Jizréel. Soit, j'ai regardé, à une bonne 30aine de kilomètres, presque un marathon. Que se passe-t-il ensuite ? Le roi Achab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoie alors un messager pour avertir Élie en ces termes. « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prend peur et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rend à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laisse son serviteur, puis marche pendant une journée dans le désert et va s'asseoir sous un arbuste, un jeûner. Il souhaite mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se couche et s'endort sous le jeûner. Comme chacun d'entre nous, après de simples bons moments ou une grande joie, ou une belle réussite avec un sentiment de victoire, ou une exaltation intense, le retour à la réalité est toujours une chute. Nous le savons bien, chers frères et sœurs, après une période de grande joie, le retour à la réalité est toujours difficile. Que ce soit simplement la reprise du travail le lundi matin après un bon week-end, ou une bonne semaine de vacances, ou une période de fête. Que ce soit la séparation après un bon moment en famille ou entre amis. Que ce soit la fin d'un projet important pour nous, ou la réussite à un examen, etc. Il y en a bien d'autres. Les lendemains sont toujours teintés, ou souvent teintés de doutes. Pour Élie, la chute est vertigineuse, d'autant plus que sa vie est directement menacée. Il vient de passer par une période de grande foi. Mais la nature de l'homme est ainsi faite, nous devons le reconnaître, que d'un jour à l'autre, la foi n'est plus la même. Élie prend peur et s'enfuit. Et paradoxalement, il demande la mort. C'est la seule issue qu'il voit, il demande la mort. « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » La chute est telle qu'Élie perd complètement son estime de soi. Tout le poids de ce qu'il a vécu depuis des années lui tombe sur le dos d'un seul coup. Il est complètement découragé, il souhaite mourir, il se couche et s'endort sous un genêt. Mais Dieu en a décidé autrement. À deux reprises, un ange vient le toucher et lui dit « Lève-toi et mange ». La seconde fois, l'ange précise « Car tu devras faire un très long voyage ». Élie s'est donc levé pour manger et boire. Puis, avec les forces trouvées dans ce repas, nous dit la parole, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va passer dans un léger souffle et lui dire « Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas ». Et c'est reparti pour Élie pour 50 jours de marche cette fois. Ces versets nous montrent une fois de plus que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Il est bien au-dessus de nos vues étroites et de nos ressentis. Nos états d'âme, nos exaltations, nos abattements, nos découragements n'empêchent en rien son plan de s'accomplir, jour après jour. Élie est découragé, car il a l'impression que tout ce qu'il a fait depuis des années est comme un coup d'épée dans l'eau, parfaitement inutile. Toutefois, dans son découragement, il crie à Dieu. Alors certes, il crie à Dieu pour demander la mort, mais il crie à Dieu. Il se sent inutile, mais ne fait aucun grief à Dieu. Au contraire, il ne discute pas, il obéit. C'est ce qui lui a permis de sortir de son découragement. Comment Élie a-t-il vaincu le découragement? En criant à Dieu et en obéissant. Pour Noémie, la situation est différente. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem, en Juda, partit avec sa femme et ses deux fils. Ils allèrent habiter pour un temps dans le pays de Moab. L'homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils Malon et Kilion. Ils appartenaient au clan d'Éphrata. Au cours de leur séjour en Moab, Élimélec mourut, et Noémie resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites, l'une d'elles s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari. Chassée avec son mari et ses deux fils par la famine, Noémie avait quitté Bethléem de Juda pour se rendre au pays de Moab. Elle revient en ayant perdu son mari et ses deux fils. Elle est sans soutien et profondément affligée. Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, mais appelez-moi Mara, l'affligée, car le Dieu Tout-Puissant m'a durement affligée. Je suis partie d'ici les mains pleines et je reviens les mains vides. Noémie ne sait pas encore que Dieu va venir à son secours par l'intermédiaire de sa belle-fille si fidèle, Ruth, la Moabite. Son découragement vient bien sûr des malheurs qui l'ont frappée. Mais comment va-t-elle y faire face? Noémie ne s'adresse pas au Seigneur. Du moins, rien ne nous est rapporté à ce sujet dans le livre de Ruth. On peut supposer qu'au moins au départ, elle a du ressentiment vis-à-vis du Seigneur. Mais pas de révolte. Le Seigneur Tout-Puissant s'est tourné contre moi et a causé mon malheur, dit-elle. Les deux femmes, Noémie et Ruth, étant toujours sans ressources, Ruth décide, avec l'accord de sa belle-mère, d'aller glaner dans les champs. Ruth glane dans le champ de Boz jusqu'au soir, puis elle bat les épis qu'elle a ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle rapporte le sac au bourg et montre à sa belle-mère tout ce qu'elle a récolté. Elle ramène également le reste de son repas et le lui donne. Noémie lui demande « Où as-tu glané tout cela aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que Dieu bénisse celui qui s'est intéressé à toi !» Ruth raconte alors à sa belle-mère qu'elle a travaillé dans le champ d'un homme appelé Boz. C'est alors qu'on voit Noémie changer. Une lueur d'espoir apparaît. Elle déclare « Je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants comme pour ceux qui sont morts. Qu'il bénisse cet homme. » Et elle ajoute « Boz est notre proche parent, un de ceux qui sont chargés de prendre soin de nous. » Alors Ruth reprend. « Il m'a même dit de continuer à glaner derrière ses serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. » Noémie dit à Ruth, « Très bien, ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boz. Si tu allais dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraitée. » Noémie réalise que même si elle a subi tous ses malheurs, le Seigneur est fidèle. Nous l'avons dit ce matin, Dieu est fidèle. Et le Seigneur ne l'abandonne pas. Elle va alors achever de sortir de son découragement en décidant de moins s'occuper d'elle-même pour prendre en charge l'avenir de sa belle-fille, Ruth. « Ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse, » dira-t-elle. Elle aurait pu continuer à se lamenter. Elle a préféré tourner la page et conseiller sa belle-fille. Nous pouvons être, à juste titre, chers frères et sœurs, nous pouvons être découragés parce que de nombreux malheurs ou souffrances nous ont atteints. Mais n'oublions pas, en tout premier lieu, que Dieu est fidèle. Et pensons à nous appuyer sur cette fidélité pour essayer de sortir de notre cadre en prenant davantage en charge ceux qui dépendent de nous ou ceux que Dieu met sur notre route. Dans la difficulté ou dans le malheur, il est facile d'oublier que le Seigneur est avec nous tous les jours. Il ne me répond pas. Je ne sens pas sa présence. Il m'a abandonné ou abandonné. Il m'a oublié ou oublié. Tous ces ressentis sont des mensonges. Il est avec nous tous les jours et il nous aime. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus. Que vous le sentiez ou non. Que nous le sentions ou non. Comment Noémie a-t-elle vaincu le découragement ? En réalisant que même dans ses plus grands malheurs, Dieu est fidèle et ne l'abandonne pas, et qu'il a un plan dans lequel elle a sa place, en décidant de moins s'occuper d'elle-même pour s'occuper davantage de Ruth, en renouvelant sa confiance en Dieu. Et rappelons ici que dans le plan de Dieu, Noémie, la Moabite, est la belle-mère de Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Donc Noémie se trouve quelque part dans la lignée de Jésus-Christ, du roi David et de Jésus. Après Élie et Noémie, je vous propose de passer à Jonas. Souvenons-nous. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais Jonas décida de s'enfuir à Tarsis, loin du Seigneur. Alors, nous le savons, chers frères et sœurs, pour la plupart d'entre nous, j'imagine, alors le Seigneur a déchaîné une violente tempête sur la mer. Les marins ont appris que Jonas fuyait loin du Seigneur. Et Jonas leur a dit également qu'il fallait le jeter par-dessus bord pour que la tempête s'apaise. Ce qu'ils se sont finalement décidés à faire. Jonas a été avalé par un grand poisson. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Puis le poisson, sur ordre du Seigneur, l'a rejeté sur la terre ferme. Dieu a redonné à Jonas l'ordre d'aller à Ninive. Alors cette fois-ci, Jonas a obéi et a proclamé dans toute la ville, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les Ninivites ont pris très au sérieux l'annonce du prophète, à ce point que le roi a proclamé que chacun devait s'asseoir sur la cendre pour un jeûne, avec habit de deuil, et renoncer à son mauvais comportement. Chacun doit renoncer à son mauvais comportement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Il adressa sa prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour ça que je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » Quelle mauvaise foi, n'est-ce pas? En fait, Jonas est très en colère. Tout ce qu'il a fait a porté du fruit, puisque les Ninivites se sont repentis de leur mauvais comportement. Mais Jonas, le justicier Jonas, n'est pas content. Il trouve injuste que la méchanceté des Ninivites, dénoncée par le Seigneur lui-même, ne soit pas punie. Et il voudrait vraiment avoir raison devant Dieu. C'est son obstination à se justifier auprès de Dieu qui le conduit au découragement. « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère au point de désirer la mort, » dit-il. « Nah, j'ai de bonnes raisons d'être en colère. » La colère de Jonas est due au fait qu'il veut absolument avoir raison. Il essaye de se justifier. En fait, c'est son orgueil qui produit son découragement. Combien de fois, chers frères et sœurs, essayons-nous de nous justifier, de justifier nos positions, nos idées ou notre comportement? Combien de fois allons-nous jusqu'à la mauvaise foi pour essayer d'avoir raison? Pour ne pas perdre la face, pensons-nous. Alors que c'est précisément dans cette obstination que nous perdons la face, surtout si cette obstination est tournée contre Dieu. Jonas, comme nous bien souvent, a une fausse vision des choses. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit l'Éternel. Souvenons-nous aussi de Job, qui après ses interminables plaidoiries répond au Seigneur, « Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. » « Je l'avoue, dit Job, j'ai parlé d'un sujet trop ardu pour moi, je n'y comprenais rien et ne savais pas. » Il ne savait même pas, nous, c'est ce qui nous arrive souvent, on ne sait même pas qu'on n'y comprend rien. En fait, on a l'impression de comprendre. Comment Jonas a-t-il vaincu le découragement? En cessant d'essayer de se justifier et en se taisant. Après la dernière explication du Seigneur, il n'a tout simplement rien répliqué, Il s'est tu et a gardé le silence. Silence devant Dieu. Alors aujourd'hui et maintenant, chers frères, chères sœurs, si la colère est en toi, si tu es dans la situation de vouloir te justifier à tout prix, si tu penses que Dieu a tort ou exagère dans telle ou telle situation de ta vie, alors aujourd'hui et maintenant, chers frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, si la colère est en toi, si tu es dans la situation de vouloir te justifier à tout prix, si tu penses que Dieu a tort ou exagère dans telle ou telle situation de ta vie, si tu penses que c'est toi qui as raison, arrête, arrête-toi, fais silence devant Dieu et dis-lui simplement, dans le secret de ton cœur, Seigneur, c'est toi le maître, tu es juste dans toutes tes décisions, j'arrête de discuter et de tourner en rond dans ma tête, je renonce à ma revendication et je me tais. Voyons maintenant la situation de la veuve de Sarepta. Le Seigneur s'adressa la parole à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se met donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appelle et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Elle part en chercher, mais il la rappelle et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » « Par le Seigneur vivant, ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain, » répondit-elle. « Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. » « N'aie pas peur, lui dit Élie, va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme va faire ce qu'Élie lui dit, et ils auront à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manque pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie a annoncé de la part du Seigneur. Ici, la situation est simple et claire. La veuve de Sarepta a épuisé la totalité de ses ressources. Elle a tout fait pour son fils et pour elle. Elle n'a plus aucune solution. Elle n'a même plus la force de penser à chercher une solution. Elle est au bout du rouleau, comme on dit. Non seulement elle est totalement découragée, mais en plus elle est résignée. Quand nous aurons mangé ce dernier repas, nous n'aurons plus qu'à mourir. Elle a dépassé le stade du découragement pour tomber dans le désespoir. Le découragement est une perte de courage, d'énergie, un abattement, une démoralisation. Le désespoir est la perte de toute espérance, un abattement total, une affliction profonde, une profonde détresse. L'apôtre Paul nous a dit « Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. » Il faisait bien la différence entre les deux. La veuve de Sarepta, elle, est à la dernière extrémité. Pourtant, dans son dénuement total et son désespoir, elle trouve la force de croire à la parole du prophète Élie. Elle accepte de le faire passer avant son fils et avant elle-même. Et la solution vient alors de la bienveillance de notre Dieu. Quelquefois, chers frères et sœurs, il nous faut descendre jusqu'à la résignation pour trouver la force de croire et de se raccrocher à la plus petite espérance. Comment la veuve de Sarepta a-t-elle vaincu le désespoir? En croyant à la parole du prophète Élie et en se raccrochant à une minuscule lueur d'espérance. Elle a cru à la miséricorde de Dieu. Pour terminer, écoutons l'apôtre Paul. Son découragement est dû à la fois à l'accumulation de persécutions et aux soucis qu'il se fait pour les églises qu'il a implantées ou visitées. Jugez plutôt. 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups de bâton. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans l'eau. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent. On a vu ce que c'est que les inondations, hein. Aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts. En danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi, dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. Nous voulons en effet que vous sachiez, frères, par quelle détresse nous avons passé dans la province d'Asie. Le poids en a été si lourd pour nous, si insupportable, que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Où l'apôtre Paul trouve-t-il la force de continuer, de persévérer? Il nous donne immédiatement la réponse. Cependant, il en a été ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ramène les morts à la vie. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, dit l'apôtre Paul, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Vous y contribuerez vous-même en priant pour nous. Ainsi Dieu répondra aux prières faites par beaucoup en notre faveur. Il nous accordera ce bienfait et beaucoup le remercieront à notre sujet. C'est là, chers frères et sœurs, toute la puissance de la prière. Puissance qui est toujours disponible aujourd'hui, à notre disposition. Ne l'oublions pas et ne la négligeons pas, la puissance de la prière. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère, dit l'apôtre Paul, en comparaison de la gloire abondante et éternelle tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Comment l'apôtre Paul a-t-il dominé le découragement? En acceptant que le Seigneur aiguise sa foi par l'épreuve, en priant abondamment et régulièrement et en demandant la prière des autres, en s'appropriant la promesse de la vie éternelle en Christ Jésus. En conclusion, comme nous l'avons dit au début, les causes possibles de découragement sont légion. Nous en avons vu quelques-unes et quelques portes de sortie. L'impression d'inutilité, l'accumulation de malheurs ou de souffrances, ça ce sont les causes possibles de découragement. L'impression d'inutilité, l'accumulation de malheurs ou de souffrances. L'orgueil, la colère, le sentiment d'injustice, la volonté de se justifier soi-même. Les situations sans issue à vue humaine, conduisant à la désespérance et à la résignation. L'accumulation de persécutions. Le souci qu'on peut avoir de soi ou des autres. Ça, ce sont les causes, certaines causes, quelques causes possibles. Comment s'en sortir ? En criant à Dieu et en obéissant. Ce n'est pas le tout de crier à Dieu, mais s'il nous répond quelque chose, il faut obéir. En réalisant que Dieu est fidèle et a un plan pour moi, quel que soit mon vécu. En renouvelant ma confiance en Dieu, en croyant à la miséricorde de Dieu pour moi. En décidant de m'occuper davantage des autres que de moi-même. En cessant d'essayer de me justifier et en faisant silence devant Dieu. En me raccrochant à toute lueur d'espérance, même minuscule. En acceptant que le Seigneur aiguise ma foi par l'épreuve. En priant abondamment et régulièrement et en demandant la prière des autres. Et enfin, en m'appropriant la promesse de la vie éternelle en Christ Jésus. Que notre Seigneur vous éclaire par son Esprit Saint et vous fasse progresser dans la foi, la prière et la paix. Amen. Alors, je voulais faire un petit témoignage. Je n'ai pas choisi ce sujet au hasard. Mes frères anciens vous diront que j'ai passé par une assez longue période d'interrogation, de découragement. Il y a des années et des années que j'apporte des messages de temps en temps. Et je me demandais, à 72 ans, et dans la fatigue que je peux ressentir parfois, si j'étais encore capable de faire quelque chose, si le temps n'était pas venu de me retirer. Voilà. J'ai eu le soutien de mes frères par la prière. Je les en remercie. D'habitude, il me faut énormément de temps pour préparer un message. J'avais complètement oublié que je devais faire le message aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte il y a une douzaine de jours, peut-être à peine deux semaines. Et ça s'est fait par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, de manière très, très facile par rapport à d'habitude. Donc, gloire à Dieu, j'ai eu ma réponse. Et il vous faudra me supporter encore un peu de temps.